I just came back for the win. They say success is the best revenge. I see the odds and I'm up in the score. I smell the victory back up on top and it's where I belong. Back and they f***ed in me. Woo! Just came back for the win.
Unbelievable!
This is success, this is the best revenge.
Un tout petit peu plus d'un mois, c'est ce qu'il a fallu à toute l'équipe du Hype Football Show pour se remettre de la défaite des Niners au Super Bowl. Alors on a pris un peu le temps hein, de se reposer aussi un peu, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir faire de temps en temps, mais on revient pour clôturer cette saison avec vous et discuter aussi de la free agency, hein, donc cette transition vers la nouvelle saison. La draft également va arriver. Quelles incidences de la free agency sur la future draft? On va se faire un gros fourre-tout ensemble de football américain. Il y a des retraites aussi de légendes. Vous les avez sûrement suivies, celle de Kelsey et Aaron Donald un petit peu plus récemment. Voilà le programme pour une bonne heure de podcast ensemble. Et on va réaccueillir un homme qui est de retour. Il était du côté de Las Vegas pour le Super Bowl. C'est Rémi Le Gonde. Salut Rémi.
Salut Sylvain, salut à tous. Très content de vous retrouver.
Le compte en banque va bien Rémi? Tout roule?
Oui, allez. Il a survécu à l'histoire.
Bon, super. On reviendra justement sur l'histoire Super Bowl avec toi, puisqu'on t'avait eu hein, sur tout le pré-show de l'événement. Raconte-nous, tu vas nous raconter bien sûr comment ça s'est passé et puis voilà un peu l'ambiance qu'il y avait, même si c'était il y a quelques belles semaines. Un autre homme est avec nous. Il est dans le sud de la France. Il doit avoir très très chaud lorsque le printemps revient. C'est Olivier Rival. C'est Olivier.
Salut, content de te retrouver, Sylvain. Oui, ça va. Le printemps commence à s'installer, c'est pas désagréable.
Es-tu hypé par la free agency des Bills?
Écoute, la free agency des Bills, c'est un peu particulier. Le but étant de perdre le moins de monde possible. Donc, pour l'instant, on perd du monde, mais bon, c'est pas la catastrophe.
Ça tient encore.
On verra. Il y a toujours ce jeu avec le cap qui fait que quand on a une bonne équipe, c'est une espèce de Tetris pour arriver à tout rentrer dans l'enveloppe budgétaire. Donc c'est un petit peu le jeu des dirigeants des Bills sur cette intersaison.
Ouais, je crois que tu parlais de cap, ils ont fait un peu de place dans le cap en modifiant un peu le contrat de Josh Allen. J'ai cru voir passer ça à nos amis du ESPN qui communiquait autour de ça. Voilà, il y aurait des bonus maintenant pour Josh Allen pour atteindre les 16 millions de saison, je crois.
Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un grand classique. Hein. Je pense qu'on n'est pas les premiers à faire ce genre de manipulation. Écoute, pour l'instant, ça passe, puisque globalement, la NFL se porte très bien. Le salary cap continue à grossir. Donc, Ça permet aussi de libérer du budget pour faire des signatures.
On en parlera un petit peu plus tard des Bills dans notre fourre-tout FA, Free Agency, marché des transferts, hein, pour ceux qui découvrent ce terme. Et pour en parler également, on va finir notre line-up, on va accueillir Greg Richard. Salut Greg.
Salut Sylvain, bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Bah écoute, très bien, mieux que les finances de Rémi, mais à mon avis, je ne sais pas où il a dépensé le plus entre le casino et l'hôtel média, mais
on ne sait pas, c'est secret défense, il se pourrait que des membres de sa famille écoutent ce podcast, on ne voudrait pas lui poser de problème à Rémi. Sans transition, allons tout de suite sur le Super Bowl, remporté par les Chiefs de Kansas City, le troisième de Pat Mahomes, il n'a pas perdu de finale, hein, Pat Mahomes. À chaque fois qu'il était en finale, ça s'est bien passé pour lui, en tout cas au Super Bowl.
Il a perdu face à Brady.
Oui, c'est vrai. Donc, bon, quand même, un ratio plutôt positif. Rémi y était, c'était donc face aux Niners. C'était d'ailleurs un remake hein, du Super Bowl. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées. Rémi, sur l'ambiance après, mais déjà sur le match et sur ce qu'il t'en reste, victoire 25-22, donc sur le fil des Chiefs, pas un énorme match, mais on se souvient d'une fin plutôt cruelle, encore une fois.
Oui, effectivement, tu as parlé d'un rematch et on a retrouvé quelques éléments qui ont rappelé cette rencontre. San Francisco qui semble bien s'installer dans le match et qui malheureusement n'arrive pas à capitaliser sur un bon début de match. Et ensuite, Mahomes qui fait du Mahomes et qui s'en sort comme il se doit. On a une rencontre qui se termine aux prolongations. Il y a pas mal d'éléments pendant la rencontre qui font dire que les Niners passent vraiment à côté de la montre en or sur cette rencontre-là. Mais c'est vrai que plus le match avançait, plus on sentait que Mahomes et les Chiefs commencent à prendre la main. Et on sait que quand Mahomes chauffe, ça devient très très compliqué avec un Kelce qui après une première mi-temps un peu frustrante, s'est réveillé. On sentait que le match avait basculé, que ça allait devenir très 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 compliqué pour les Niners. Et de ce fait, Mahomes a fait du Mahomes, Kelce a fait du Kelce, et malheureusement San Francisco a fait du San Francisco. Ouais, peut-on dire que Shanahan a fait du Shanahan, et voilà.
Andy Reid, on se souvient de ces images où Spi Kelce là sur, ou même plutôt c'est Kelce qui vient vers son coach en lui demandant de le laisser jouer, et Kelce qui dit Andy Reid qui lui répond t'as qu'à être meilleur pour être sur le terrain. C'était un peu l'ambiance de cette première mi-temps. Le score par carton 0-0 à la fin du premier quart, 3-10, donc 10 pour les Niners à la fin du deuxième quart, pardon. Et inversement, deuxième mi-temps, 10-0, et ensuite un 9-6 pour donc les Niners, et ça finit en prolongation, tu l'as dit Rémi, à 6-3. Rémi, non, on va pas lancer Rémi, on va lancer peut-être Olivier, sur les deux dynamiques, encore une fois, des Niners. Qu'est-ce que tu penses un peu de leur manière de qu'ils ont à ne pas rentrer dans les matchs comme il faut. Alors là, c'est pas trop le cas. C'est plutôt la deuxième mi-temps qui n'a pas été bien abordée.
Oui, alors, du côté des 49ers, je pense qu'il y a, comme le dit Rémi, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de regrets, parce que il y a plusieurs fois dans le match où ils auraient pu, entre guillemets, le tuer, ou en tout cas le gagner. Quand on gagne un match 25-22 en prolongation, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'actions qui auraient pu faire basculer le match dans l'autre sens. Ce qui a peut-être manqué aux 49ers, c'est ce qui a manqué régulièrement, pas régulièrement, mais peut-être ces dernières saisons, c'est une espèce d'instinct de tueur à un moment. À un moment, il faut tuer les matchs, il faut prendre un tout petit peu plus de risques pour finir un match qu'on a maîtrisé jusque-là. Et quelquefois, c'est peut-être ce qui a manqué de se contenter de 3 points à certains moments ou de pas prendre un tout petit peu plus de risques pour aller plus fort. Mmh. C'est un petit peu ce qui a manqué, et on a vu que les Chiefs le font très bien, parce qu'en fait cette saison, enfin le match ressemble à la saison des Chiefs. En fait, ils ont eu un début de saison quelquefois un peu laborieux, ça a même été quelquefois justement on s'est un peu engueulé en bord de touche, il y a eu pas mal de frustration à certains moments, on l'a vu au cours de ce Super Bowl, mais au final ils ont trouvé les ressources et la manière de tuer l'adversaire au bon moment, et au final ils ont gagné. Et j'ai trouvé que le match ressemblait vraiment à leur saison, et c'est cet instinct de tueur qui manque aujourd'hui peut-être aux 49ers, comme il peut manquer à d'autres équipes qui sont plutôt bonnes ces dernières saisons. On peut penser aux Bills, on peut penser aux Ravens par exemple. C'est qu'il manque ce petit quelque chose qui fait que quand il faut frapper, il faut passer achever l'adversaire entre guillemets, les Chiefs le font beaucoup mieux que tout le monde en ce moment en NFL.
Greg, est-ce que pour rebondir sur ce que dit Olivier, c'est pas finalement l'équipe, alors ça va être très bizarre comme question, mais qui sait gagner, qui a gagné? C'est-à-dire que l'expérience des Super Bowls passés, la gestion de cette saison régulière où tu les vois un petit peu monter en puissance et peut-être même gérer finalement leurs efforts, leur permet de répondre à tout type de situation en playoff et encore plus en Super Bowl, quoi.
Alors, certes, en effet. Moi, je pense que quand même la différence par rapport aux années précédentes, c'est que, en effet, cette montée en puissance en régime pendant le cours du mois de décembre, on le percevait assez nettement les dernières années. On est dans une saison très particulière pour les Chiefs,
ouais.
Qui offensivement se sont constamment cherchés. On avait souvent l'impression que Patrick Mahomes lui-même était le premier perdu. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup ressenti un peu trop à mon sens sur ce Super Bowl, et je pense que non seulement en effet les Chiefs ont fait du Chiefs en étant capables de gagner un grand rendez-vous, Certes, Patrick Mahomes et Travis Kelce sont sortis du chapeau quand il fallait sortir du chapeau, mais je pense aussi que cette saison récompense, pour une fois, je dirais, mais bon, une fois n'est pas coutume par rapport à ce qu'on a vu sur le parcours récent de Kansas City, l'excellent travail de la défense de Kansas City cette année. Je pense que ce n'est pas faire injure à Patrick Mahomes et à l'attaque des Chiefs que de dire que ce trophée Lombardi, c'est principalement avec la défense qu'ils sont allés le chercher. Il faut se rappeler de leur victoire sur le terrain des Bills, de leur victoire sur le terrain des Ravens. Désolé au passage, Olivier. Là, sur ce match-là, à mon sens, et j'étais très égoïstement, j'étais en déplacement assez lointain pour des vacances à l'occasion du Super Bowl, donc je n'ai pas pu voir ce match de nuit.
Où étais-tu ? Ça nous intéresse, hein, ça intéresse la France.
J'étais en Namibie, figure-toi.
D'accord, très bien.
Voilà, et bon. J'invite tout le monde à y aller parce que c'est un pays formidable.
D'accord.
Et la parenthèse étant fermée, j'étais très heureux égoïstement de voir ce match de journée parce que c'est peut-être une opinion assez impopulaire, mais je me suis copieusement ennuyé sur ce match.
D'accord.
Pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé que les deux attaques, non seulement en effet, n'étaient pas très inspirées. Olivier parlait notamment du manque de risque de San Francisco, mais quand on voit ne serait-ce que la première mi-temps de Kansas City, heureusement qu'il y a eu cette fin de match très haletante et bien entendu cette prolongation avec le scénario assez particulier. Parce que c'est vrai que c'est aussi à l'image de cette saison, on a été globalement beaucoup déçus par les attaques. Et malheureusement pour nous, sur ce dernier match de la saison, l'attaque du champion en titre et du champion final est aussi symptomatique de ça, avec des actions en effet qui permettent de faire la différence, des jeux clés qui font pencher la balance en faveur de Kansas City, hein. On parlait du manque d'inspiration de San Francisco, mais la réussite aussi, on pense à ce pied par exemple qui traîne sur équipe spéciale et qui rend la possession à Kansas City en excellente position. Voilà, c'est pas l'attaque qui, à mon sens, aura porté Kansas City jusqu'au titre. Patrick Mahomes ne va pas s'excuser pour autant, mais je trouve que ça récompense le bon travail des Chiefs ces dernières années, notamment en termes de draft, pour aller récupérer des jeunes joueurs qui ont réussi à consister à un noyau dur, une superbe stature, et qui font que cette équipe de Kansas City, même en étant souvent au fond du trou cette année, ou en tout cas vraiment en plein doute, elle arrive quand même à coiffer des équipes au poteau.
Rémi, juste pour rebondir sur ce que dit Greg, manque de créativité et de prise de risque, ou alors finalement très bon scouting des coordinateurs défensifs, des deux côtés, hein, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment éclaté au niveau spectacle, quoi. Et est-ce que tu le confirmes, toi, qui étais sur le terrain ? Enfin, en tout cas, dans les tribunes.
Je suis assez d'accord avec cette analyse. Je trouve qu'on a particulièrement été frileux du côté de San Francisco parce que le ballon avançait, puis la défense a clairement pris le dessus. Et on n'a pas osé. On n'a pas osé du tout du côté de San Francisco. Alors qu'il y a eu pour moi de belles occasions. Là où j'ai été quand même extrêmement impressionné par la défense des Niners qui a un peu étouffé Patrick Mahomes en première mi-temps. J'ai l'impression que sur cette première mi-temps justement, les Niners avaient des occasions offensivement qu'ils n'ont pas prises, et on a eu une défense des Chiefs qui en deuxième mi-temps était impeccable. Et c'est vrai que ce match, c'est sans doute la défense qui le gagne. Une nouvelle fois, c'est Chris Jones qui brille quand il doit le faire. C'est quand même un peu l'homme de ses titres, et on n'en parle pas beaucoup. On en parle un petit peu, on parle souvent de Mahomes, mais on parle rarement de ses défenses. Et cette année, pour moi, c'est la défense effectivement qui l'a emporté. À la différence près qu'offensivement, ils ont su sortir les quelques plays nécessaires parce qu'ils ont effectivement Mahomes et Kelce qui étaient présents quand ils ont dû l'être en deuxième mi-temps. Et du côté de San Francisco, on est resté frileux jusqu'au bout. Je pense notamment à ce drive dans les prolongations où on se dit est-ce réellement utile d'aller tenter ce field goal, sachant que derrière, on rend le ballon à Patrick Mahomes qui aura 4 tentatives à chaque fois. Je me demande dans quelle mesure on ne doit pas d'office aller au touchdown, surtout qu'on est si proche de la zone d'en-but. Compliqué forcément de prendre ce type de décision, mais j'ai tendance à croire que l'histoire prouve que donner 4 tentatives à Patrick Mahomes pour faire 10 yards, c'est un peu une garantie qu'il avancera. Donc voilà, j'avoue que j'ai été un peu déçu par le peu de risques pris par l'attaque de Shanahan, et ça avait déjà été le cas il y a quelques années face à ces mêmes Chiefs. Donc c'est un peu bis repetita et c'est un peu dommage parce que ça arrive une fois, je peux le comprendre, mais que ça arrive une deuxième fois, c'est vraiment problématique. C'est vraiment une défaite dans les mêmes conditions, je trouve.
Arriver au Super Bowl, c'est donné à personne. Donc effectivement, quand tu reproduis deux fois de suite, Ça pose question. On se projettera d'ailleurs dans la Free Agency, savoir si l'équipe doit et peut être améliorée, ou a été même d'ailleurs améliorée. Mais sur Coach Allen, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il a atteint un peu son plafond de verre et que ce genre de situation, il n'a pas encore tous les outils en main pour les gérer? Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire autre chose à quelqu'un d'autre?
Oui, c'est vrai que moi personnellement, j'avoue avoir été très déçu. Pour moi, c'était un peu pas son match de la dernière chance, parce que c'est vrai qu'il performe, les statistiques sont là, il faut y être au Super Bowl, comme tu l'as dit, c'est pas donné à tout le monde. Mais malgré tout, dans ces matchs super importants, ben voilà, pour moi, il a ses responsabilités. Il n'est pas tout à fait innocent dans cette défaite des Niners, loin de là. Donc j'ai tendance à croire que le problème, c'est que c'est difficile forcément de virer un coach qui a de telles stats et qui emmène son équipe au Super Bowl. Mais malgré tout, il y a une énorme remise en question pour moi à faire à ce niveau-là, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pas un copier-coller de la première défaite face à Kansas City, mais on en est proche et on le ressentait. On sent vraiment une peur dans le play-calling dans ces Super Bowls qui est problématique, là où on voit qu'en saison régulière, ça propose des jeux assez fous. On sait que la capacité est là. L'armada offensive est quand même pas négligeable. Purdy n'aurait aucune cible. On n'aurait rien à dire là-dessus. C'est clair qu'on peut s'appuyer sur un running game efficace. Mais là, il a quand même des cibles de choix, des cibles de luxe.
Après, est-ce qu'il a confiance en Purdy, tu vois, sur un match si coup près que le Super Bowl? Est-ce que ça raconte pas le fait que la confiance, tu vois, qu'il a, ou que le coordinateur offensif a en son quarterback est un peu limitée quand tu prends finalement si peu de risques?
Ouais, peut-être, mais après, il faut aussi être conscient que si on arrive avec un manque de confiance sur son quarterback, même si j'avais quand même le sentiment qu'il était plus que soutenu par l'ensemble de son équipe,
bien sûr, ouais.
Mais si tu n'as pas confiance et que tu ne donnes pas les chances, pour moi, jouer face aux Chiefs pour ne pas perdre, c'est la meilleure manière de perdre. Donc voilà, ils ont joué à ce jeu-là. Pour moi, il fallait jouer pour gagner, ça n'a pas été le cas. Et ils l'ont payé. Je pense que j'ai l'impression que tout le monde était conscient dès le milieu du troisième quart-temps que les Chiefs allaient aller chercher ce titre, et que malheureusement ça s'est déroulé, malheureusement pour les Niners. Et donc voilà, pour moi c'est décevant parce que prévisible, et parce que rien n'a changé, parce qu'on n'a pas essayé, quoi.
Bon,
juste Sylvain, si tu me permets, juste une petite réflexion sur Shanahan. Moi, il y a deux choses qui m'interrogent un peu, parce que c'est vrai que tu poses la question à raison, qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on est fan des Niners, c'est qu'on se dit en soi, l'effectif,
il est là.
Il n'y a pas beaucoup de points où on peut pinailler. Oui, on peut dire que sur le poste de cornerback, il y a Ambry Thomas, c'est peut-être pas parfait, on peut peut-être mettre autre chose à la place, qu'il pourrait encore y avoir un petit peu plus de profondeur, tout ça, mais... Moi, je pense que si vraiment on veut continuer de développer un peu cette équipe des Niners, je pense qu'il faut apporter du talent brut sur la ligne offensive, parce qu'on a quand même vu sur certaines séquences que Trent Williams, aussi excellent qu'il soit, il pouvait avoir des petits moments de rechute sur certaines périodes. Il y a des flags un petit peu bêtes dans mon souvenir. Et puis globalement, je pense que même si c'est le système qui sublime les joueurs plutôt que les joueurs qui subliment le système, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que dans un système aussi efficace et létal que celui qu'a installé Kyle Shanahan ces dernières années en NFL, si en plus tu as des joueurs qui savent très bien exécuter, comme on voit par exemple que Christian McCaffrey sait très bien exécuter le jeu au sol, alors que Kyle Shanahan a toujours eu des running backs un petit peu sortis du chapeau plutôt que des joueurs extrêmement établis comme l'était CMC en provenance de Carolina, et peut-être que ça pourra en effet permettre à San Francisco de se faire encore un peu plus respecter dans les tranchées, notamment dans les moments importants.
Jouer plus au sol que...
Peut-être aussi. Après, sur l'histoire de Purdy, je rejoins un peu ce qu'a dit Rémi, parce que pas lui faire assez confiance, c'est un peu ce que j'ai dit tout au long de la saison. C'est-à-dire que, encore une fois, en NFL, ça va toujours très vite. Et même si je ne remets absolument pas en cause tout le talent, le développement qu'a démontré Brock Purdy, avec notamment des statistiques, il a quand même écrit son nom dans l'histoire des 49ers, quand on sait les joueurs et les quarterbacks notamment qui y sont passés, c'est tout sauf anodin. Maintenant, on le sait que le joueur établi dans cette équipe-là, c'est Christian McCaffrey. Alors après, le truc, c'est toujours pareil, t'as un peu, permets-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est, est-ce que tu essaies de surprendre tout le monde en mettant une pression excessive sur ton quarterback pour le coup, dans un rendez-vous qu'il n'a jamais joué face à une défense qui, comme on l'a dit, est extrêmement intéressante, ou en effet, tu appuies sur le jeu au sol face à une défense qui forcément va être amenée à s'attendre un petit peu à ce que tu vas mettre, à ce que tu mettes ça en place.
Oui.
Donc, je pense qu'ils étaient dans un espèce d'entre-deux et qu'en effet, ça a rendu ce match, je trouve, un peu insipide. Le rendement offensif de San Francisco a été un peu décevant. Et alors, moi, la chose pour laquelle j'ai un peu de mal au sortir de ce match-là, je veux bien entendre les lacunes qu'a pu avoir Steve Wilks, le coordinateur défensif, tout au long de cette saison. Manifestement, c'est ce qu'a expliqué son débarquement après le Super Bowl dans ce match-là, parce qu'on nous a dit que la défense était mal préparée, tout ça. Je veux bien entendre ces arguments-là. Sauf que sur le Super Bowl, ce n'est pas la défense qui te fait perdre le Super Bowl. Donc, là aussi, je commence à me dire, OK, Shanahan, le fameux match face à New England, dont vous vous rappelez, mais moi non. Oui, il y a eu une mauvaise gestion de Shanahan, ça c'est assez clair. Je pense que le match contre Kansas City, il y a aussi une part de malchance qui rentre en jeu, parce que voilà, il y a deux touchdowns qui s'accumulent, et bon, après c'est le jeu du momentum également. Là, franchement, sur ce match-là, ça passe pas à grand-chose, mais c'est pas pour ça que sa responsabilité est pas invoquée. Et je pense qu'il y a une remise en question qui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Ouais. Il y a quand même un certain ego chez Kyle Shanahan, et c'est là où il faut se dire, en effet, oui, il prend des portes à la figure après chaque Super Bowl, mais quelles sont les leçons qu'il en tire ? Ça, c'est surtout ça qui va être le plus important pour savoir si vraiment il va pouvoir continuer de garder ce groupe sous pression et compétitif au cours des prochains mois.
Pour l'instant, il n'est pas question qu'il soit remis en question. Hein. En préparant cette émission, j'ai regardé un peu ici et là. Il est bien en place.
Il n'y a pas de raison de débarquer ton coach qui vient de jouer à un Super Bowl malgré tout. Quoi. Mais encore une fois, on s'intéresse au Super Bowl. Rappelons-nous quand même du parcours très tortueux des Niners en conférence nationale. Ouais, ils sont quand même passés par la peau du slip contre les Packers et les Lions, qui ont montré des très bonnes choses, mais qui auraient largement pu sortir un gros favori de la NFC qui était San Francisco.
Tu fais bien de le mentionner, ce parcours en playoff, parce qu'on n'a effectivement pas reconnu la sérénité de la saison régulière. Alors après, c'est deux salles, deux ambiances. Mais effectivement, plus les tours passaient, et plus finalement le château s'effritait un peu, que ce soit défensivement, que ce soit, on se souvient, contre les Eagles notamment, où ça avait été un peu spectaculaire de la part des Eagles, un peu trop. Bon, il va falloir surveiller un petit peu tout ça. Les Niners seront, à mon avis, de nouveau un sérieux contender la saison prochaine. À surveiller.
Je voulais juste signaler un détail, mais qui n'en est peut-être pas un, mais dans les statistiques qu'on regarde de ce Super Bowl, moi, il y en a une qui m'a choqué et qui résume peut-être aussi comment ça s'est gagné, notamment grâce à la défense des Chiefs et aussi au fait que les 49ers n'ont pas trouvé le déclic en attaque. C'est que Deebo Samuel, qui est quand même le receveur qu'on peut attendre sur du jeu long dans cette équipe-là.
Était blessé, enfin, qui était sur la liste, mais plutôt revenant.
C'est le joueur qui a été le plus... vers lequel Purdy a le plus lancé. Il a lancé 11 fois vers Deebo Samuel et il n'y a eu que 3 passes qui ont été réussies. Donc Deebo Samuel, il a fait 3 réceptions et il a fait 3 courses. Il a fait autant de courses que de réceptions. Déjà, à la base, ça posait problème. Et donc, ça veut dire que plus de la moitié des passes que Purdy a ratées dans ce Super Bowl, elles allaient vers Deebo Samuel. Et donc, la défense des Chiefs a complètement coupé ce lien fondamental pour l'attaque des 49ers. Donc alors je ne sais pas si c'est la qualité de la défense et du plan de jeu des Chiefs ou si c'est à la fois le fait que Deebo Samuel n'était pas à 100% et que l'attaque des 49ers était peut-être trop prévisible. Mais, mais pour moi, là, sur cet aspect-là, il y a vraiment quelque chose qui a fait la différence au final.
George Kittle a touché combien de ballons, messieurs, de mémoire, vous savez ou pas ? Et Rémi, toi qui étais pareil sur place, est-ce que l'impact de Kittle...
Là aussi, c'est un vrai problème, parce que Kittle a fait 2 réceptions du match pour 4 yards, donc on est très très loin de ce qu'on peut attendre d'un joueur comme lui. Ouais.
On peut donner crédit à la défense quand même, parce que 4 yards pour Kittle à 2 réceptions, si tu mets Deebo Samuel à 3 réceptions à côté... soit les mecs n'étaient pas venus ce jour-là, ou alors bien scoutés par la défense quand même, hein, des Chiefs. Hein. Faut bien leur reconnaître quelque chose. Troisième titre pour Pat Mahomes. Voilà ce qu'on pouvait se raconter. Hormis si Rémi voulait nous raconter un peu les nights de Las Vegas, mais hormis tout ça, voilà ce qu'on pouvait se raconter sur le Super Bowl gagné. Donc après prolongation 25-22 du côté de l'Allegiant Stadium à Las Vegas. Prochain Super Bowl, messieurs, ce sera où? Vous savez, on sait déjà ou pas?
Oui, on le sait déjà. Ce n'est pas... Je ne dis pas... C'est pas New Orleans?
C'est
Ouais.
Ah oui. À New Orleans, ouais, tout à fait.
Okay. On verra si les Saints peuvent prendre date. Hein. Ils partent un peu loin, mais bon.
Hein? Pardon.
On essaye,
messieurs.
On essaye, on essaye. Bon, allez, on avance dans notre podcast. On a encore beaucoup de choses à se raconter. On va parler des néo-retraités juste après ce jingle.
Welcome back to Super Bowl 58.
Non, pas du tout, c'était pas ça, c'était ça.
Less than a yard to gain on fourth down with 43 seconds remaining.
Hey, what else could you want? What else could you want? Right now, let's go! Let's go! Hey, Aaron, this is the moment, right now!
For the world championship right here.
Burrow to throw for it. He's hit. He flings it away on fourth down. Aaron Donald got there.
Yes! Yes! I knew it!
The greatest of all time does it in the biggest moment of Super Bowl 56.
Aaron! Aaron! Hey! Come here! Hey, I knew!
World champs! Great job!
We're world champs!
Yes, sir!
We're world champs!
Yes, sir! Aaron Donald est un néo-retraité. Vous avez reconnu Aaron Donald et John McVay. Voilà, cette célébration du Super Bowl. Gagné avec les Rams, hein, c'était dans le SoFi Stadium de Los Angeles. C'était en 2022, messieurs, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Aaron Donald, on en parle un petit peu ensemble, messieurs. C'est l'un des joueurs les plus hype retraités récemment. À 32 ans, 10 ans de NFL pour Aaron Donald. On parle aussi un petit peu de Jason Kelsey, même si on en avait parlé un petit peu dans un précédent podcast, qui se retire également, désormais ancien des Eagles. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Aaron Donald, messieurs, 32 ans pour se retirer? Est-ce que c'est pas... Un poil tôt vu le talent et puis l'impression un peu positive qu'on avait quand on regardait Aaron Donald, un joueur un petit peu spécial, notamment dans ses préparations et puis bien sûr dans ses mises en action. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Bon, après, c'est à lui de décider, mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu un peu profiter un peu plus d'Aaron Donald, Olivier?
Ah, bah si, on aurait voulu en profiter un petit peu plus. Alors après. Après, la NFL, c'est un monde dur, sur un poste difficile sur la ligne. C'est sûr que c'est usant. Il a peut-être aussi vu qu'il avait un tout petit peu moins de mordant cette dernière saison, peut-être même aussi l'année dernière. Mais ça, c'est. Et qu'il n'a peut-être pas voulu justement décliner, devenir un joueur comme les autres, parce qu'il n'a jamais été un joueur comme les autres. Hein. C'est quand même très, très rare. Qu'un joueur fasse 10 saisons et qu'il aille 10 fois au Pro Bowl, par exemple. Hein. Oui. Donc, voilà, il a toujours été au sommet à son poste dans la ligue. Mais effectivement, on peut peut-être regretter un départ à la retraite à seulement 32 ans.
13e choix de la draft 2014, drafté par les Rams de Saint-Louis, hein, devenus les Rams de Los Angeles, vous êtes au courant. Un joueur qui a fait toute sa carrière dans une même franchise quand même. On peut aussi le souligner, Greg. Grosse légende des Rams et de la NFL. Qu'est-ce que tu vas retenir, toi, d'Aaron Donald sur une carrière de 10 ans comme ça?
Ah bah, c'est deux saisons sans sélection All-Pro, je pense que c'est quand même terrible. Olivier le disait, il y a 10 Pro Bowl, mais 2014 et 2023, bon, pas de All-Pro. 2022, pardon, pas de All-Pro, donc c'est vrai que ouais, ça entache un petit peu la légende, c'est terrible. Non, après, pour être un peu plus sérieux, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu le disais, en plus, c'est vrai qu'il marque quand même l'histoire des Rams, il y a eu 2-3 mecs pas trop mauvais sur la ligne défensive des Rams au cours de leur histoire. Donc, c'est vrai qu'il va s'inscrire très clairement dans cette lignée-là. Et je pense que, voilà, je ne sais plus quelle est la période exactement d'intronisation Hall of Fame, mais je pense que d'ici 4 ou 5 ans, il pourra prétendre à la veste dorée et il n'y aura pas grand-chose à en redire. C'est quand même un des rares à avoir aligné une saison à plus de 20 sacs en 2018. En effet, l'année où les Rams ont remporté le Super Bowl, il a un rôle éminemment important. Il n'a pas toujours été très aidé, à mon sens, pendant une certaine période, même au début de l'ère Sean McVay, défensivement, où il a vraiment dû s'employer quasiment tout seul et pour le coup, il arrive à le faire. Il faut rappeler que c'est un joueur, et je vais peut-être terminer là-dessus, mais qui a été sélectionné en tant que 13e choix lors de la draft 2014, notamment parce qu'il était considéré comme petit. Hein, ça tombe bien parce que la draft arrive
1m85.
Bientôt,
donc,
voilà, donc ouais. C'est sûr que voilà,
défensif tackle,
bon, ouais. Tu fais moins d'un 90, bon bah ok, le Nabo, tu vas peut-être être, tu vas peut-être finalement aller chez la Rams, okay. T'as de la chance, mais voilà, on voit que c'est un bourreau de travail et c'est typiquement le genre de profil sur le terrain, c'est typiquement le genre de profil à la JJ Watt, un joueur toujours en activité, un peu moins exubérant, hein, c'est moins qu'on puisse dire, mais voilà, c'est la même trace, je pense, qu'il laissera dans la Ligue, de cette menace vraiment, de tout simplement cette nouvelle génération de defensive tackle qui était presque autant excellent sur le pass rush que sur le jeu au sol. Donc voilà, je pense qu'on peut que regretter, même si malheureusement... Il l'avait déjà laissé sous-entendre lors de la conférence de presse, en tout cas de la parade des Rams post-Super Bowl gagné face à Cincinnati. Il avait déjà laissé entendre que peut-être qu'il allait raccrocher. Finalement, il a poursuivi 2 années de plus, mais voilà, on ne sait pas quel est l'état de son physique non plus. Hein. Il faut rappeler que c'est un joueur qui joue quasiment tous les snaps. Mmh. Il a peut-être aussi envie de profiter de sa famille. Tout le monde n'est pas Tom Brady. Donc voilà, c'est sûr que tout ça, mis bout à bout, voilà, c'est un grand regret pour tout fan de NFL. Mais on ne peut que s'incliner face à la grande carrière qu'a réussi à avoir un tel joueur.
Toi qui suis plus particulièrement la NCAA, il y a quelques awards aussi individuels pour Aaron Donald. Je suis en train de regarder, hein, je ne les ai pas en tête. Reconnu à l'unanimité, joueur All-American en 2013, vainqueur de l'Outland Trophy également en 2013, du Lombardi Awards. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Bronco Nagurski Trophy en 2013. Enfin, tu dois sûrement savoir de quoi
il s'agit. Oui, il y a sûrement du meilleur. Enfin, après, je t'avoue que tous les noms des trophées, ouais. Je m'y perds un petit peu moi-même. Okay. Mais il y a du meilleur défenseur, du meilleur lineman défensif. Il y a à peu près tout ce qui porte un nom. Je pense qu'Aaron Donald a écrit son nom dessus. Ouais.
Ah, après, en plus, il a fait tout ça dans une université qui est pas dans les grandes universités, même à l'époque, hein, puisqu'il était à l'université de Pittsburgh, donc il s'est fait d'autant plus remarquer dans une université qui n'était pas dans les grandes de son époque.
C'est ça. Et il a quand même réussi ça aussi, puisqu'on fait la vie de transition avec Pittsburgh. Ouais. Ce qui est bien, c'est que maintenant, dès qu'il y a un lineman défensif un peu pas mal qui sort de Pittsburgh, tout de suite, on fait le nouveau Aaron Donald.
Voilà.
Le dernier en
date,
c'était Khalid Jakansi, qui s'en est pas trop mal sorti lors de sa saison rookie à Tampa Bay, mais c'est vrai que voilà, c'est un label qui peut être parfois un peu dur à supporter, tant il a eu un impact à Pittsburgh, mais également en NFL.
Bon, Aaron Donald, parmi les meilleurs defensive tackle all time, ça c'est sûr. Ou pas, d'ailleurs, je posais la question à Rémi, comment on peut ranker Aaron Donald maintenant qu'il est retraité ?
Bah, c'est difficile à dire, en tout cas, il est dans le top du top. Ouais. C'est vrai que ces joueurs qui... Moi, j'ai tendance à apprécier quand même ces joueurs qui partent au top, parce que quand ils partent un an trop tard... Malheureusement, j'ai l'impression qu'on se souvient très souvent de la très mauvaise saison, la dernière saison. Okay. En l'occurrence, pour lui, il sort une dernière belle saison. C'est vrai qu'il a toujours été au top. Le classer, c'est assez difficile, mais c'est vrai que sur cette décennie-ci, c'est difficile de voir quelqu'un qui est au-dessus de lui. Comme l'a dit Greg, c'est comparable à un JJ Watt. Je pense que c'est clairement le top du top de sa génération. Il suffit de voir un petit peu les game plans qui étaient prévus pour lui avec 2 hommes, parfois 3 hommes, parfois 4 hommes pour le stopper. Donc c'est, voilà, c'est tout simplement du respect des coachs adverses parce qu'ils savent que c'est l'homme qui perturbe les attaques. C'est lui qui a quand même offert le Super Bowl à son équipe. On se rappelle de ce play en 4e tentative face aux Bengals au Super Bowl. Donc voilà, il a tout, il a été excellent en saison régulière, il a été décisif en play-off, il a toujours, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment fait de vagues, donc c'est un joueur, je pense que tout le monde se doit d'apprécier, et qui est extrêmement talentueux, donc j'ai tendance à le mettre dans le top largement dans.
Allez,
si je dois mouiller, je dirais. Top 3 de ce siècle-ci, ça me semble indéniable.
Ok, bon, tu prends pas trop de risques, hein, parce que le siècle dernier, il y avait quelques bons joueurs aussi.
Ouais. Pour résumer, on va dire que c'est le meilleur DT depuis Reggie White. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas?
Oui, c'est une assez bonne comparaison, effectivement.
Ok. JJ Watt, j'aimais bien, mais bon, c'est pareil, c'est assez différent finalement. Allons sur Jason Kelce. On nous reste quelques minutes pour parler de tout ça avant de faire une belle page quand même Free Agency. On a promis de ne pas faire trop long aujourd'hui. Jason Kelce, donc le frère de Travis, vous le savez, mais surtout un joueur exceptionnel hein, qui tire sa révérence. On en avait un petit peu parlé dans un précédent podcast. 13 saisons pour Jason Kelce, drafté par les Eagles de Philadelphie. C'était en 2011. 191e choix, messieurs, donc assez tardif. Assez tardif, et puis il y a pas mal de Pro Bowl, il y a pas mal de All Pro. Hein, si je compte bien, ça fait 6. Quand même pour Jason Kelce, et puis un Super Bowl aussi hein, remporté, Super Bowl 52, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette carrière, messieurs? Finalement, un joueur très apprécié du monde du football américain, Jason Kelce, qui s'exprime aussi pas mal dans les médias et à travers son podcast récemment. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette carrière? Qui se lance.
Bah pour moi, on peut de nouveau à son poste, c'est un gars qui a marqué. Après, c'est vrai qu'il n'a pas le poste le plus mis en valeur de la ligue.
Non.
Bien que la mode du run des Eagles a permis de parler un peu plus de lui, à le mettre un peu plus en lumière, ce qu'il méritait amplement. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse perte. Je pense qu'on en avait parlé notamment au niveau du vestiaire. Parce qu'en plus d'être un excellent joueur, je pense que c'est un gars qui fait du bien dans un vestiaire. Il apporte de l'expérience. Il apporte énormément d'expérience. Il a l'air d'être dans le bon esprit. Et c'est vrai que ça reste une très grosse perte. Il est, pour moi, de nouveau, le meilleur à son poste, voire le meilleur à son poste récemment.
Okay.
Il a clairement mis son empreinte sur ce poste-là. Il a réussi aussi dernièrement, comme tu l'as dit, à un petit peu faire parler de lui au niveau médiatique et de manière plutôt positive. Ce qui l'aide assez bien, parce que c'est vrai que pour avoir écouté quelques fois son podcast, je le trouve assez agréable.
Oui.
Et une belle carrière. Il a quand même été chercher des titres en ayant un rôle assez important dans son équipe, un rôle de capitaine, un rôle sur le terrain, un rôle en dehors du terrain. Donc pour moi, ça va être une grosse perte du côté de Philly, mais de nouveau, il part au top. Je pense que c'est une très belle chose de pouvoir faire ça et de pouvoir profiter effectivement de sa famille, contrairement à d'autres, comme l'a très bien dit Greg. Et voilà. Je pense que personne ne pourra critiquer sa carrière et qu'on est assez tous d'accord pour dire que c'est un gars qui va manquer à son équipe.
13 saisons à haut niveau, vainqueur d'un Super Bowl, je pense qu'effectivement la carrière est réussie. Question un peu collégiale à Greg et à Olivier, et si vous voulez en rajouter, n'hésitez pas. Est-ce qu'avec Aaron Donald, c'est pas des joueurs qu'on aimerait quand même voir vite rejoindre un staff ou rester au plus proche quand même de la ligue pour continuer à bien sûr à profiter de leur expérience, mais que eux puissent aussi faire profiter de leur expérience aux jeunes?
Oui, c'est toujours une possibilité, bien entendu. Alors après, maintenant, il y a de plus en plus de biais. Hein. J'ai souvenir d'un Travis Kelce à qui on avait posé la question, notamment sur TDA, pendant les conférences de presse, de savoir si lui, par exemple, ça l'intéressait de coacher à l'avenir. Et c'est vrai que lui avait plutôt expliqué qu'il privilégiait, par exemple, des séminaires ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, des matchs un petit peu organisés, des matchs de jeunes un peu organisés chaque année pour des cliniques. Voilà, je cherchais le terme.
Oui.
Comme on dit aux États-Unis, des cliniques pour justement faire distiller un peu tout son savoir. Après, bien entendu, que c'est une possibilité. J'imagine plus très Jason Kelce dans ce rôle-là qu'Aaron Donald.
Tout à fait.
Comme je l'ai dit, c'est pas le joueur le plus exubérant non plus. le defensive tackle des Rams. Mais pourquoi pas? Après, je pense que oui, Jason Kelce, pour donner tous ses conseils sur une position éminemment sous-estimée comme celle de centre, je pense que ce ne sera pas une mauvaise chose. Je laisse peut-être la parole à Olivier, juste une petite parenthèse, messieurs, mais j'ai vu passer ça. Il faut quand même savoir que je vais y arriver, que Jason Kelce et non Travis et Aaron Donald ont joué l'un contre l'autre en college football en 2010, plus précisément, dans un match entre Cincinnati et Pittsburgh. Donc, donc voilà, on pourrait penser que l'un est plus jeune que l'autre, hein, Kelce ayant 36 ans et Donald 32. Bah, ça ne les a pas empêchés de jouer un match universitaire l'un contre l'autre. Donc voilà, ça m'a permis de retomber un petit peu là-dessus récemment.
Destin croisé, effectivement, il y a 4 ans d'écart quand même. Donc c'est assez rare de pouvoir.
Tout à fait. Jason Kelce, sa plus grande qualité, c'est quand même d'être de la génération 87. Donc voilà, rien que pour ça, un grand kudos, M. Kelce.
Bon, la meilleure des générations, apparemment un indice sur l'année de naissance d'un certain Greg Richard. Olivier, Jason.
Non, mais écoute, c'est difficile d'en rajouter sur tout ce qui a été dit. Effectivement, il a peut-être aussi à amener, parce qu'il s'est un passionné du football. Avec son podcast, il en a justement à rajouter un petit peu. Et il est à ce poste qui est si clé de centre au cœur de la ligne offensive. Donc, effectivement, pourquoi pas le retrouver dans un staff? Ça me paraît fortement envisageable, donc on va suivre ça. En tout cas, s'il n'est pas là, ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve du côté de la presse, pour le coup.
Oui, ça, il se débrouille bien. C'est plutôt quelque chose qu'il a en lui. Le verbe assez facile, c'est plutôt intéressant parfois de l'écouter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les néo-retraités. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais peut-être un peu moins hype pour nous. Si vous voulez qu'on les aborde, n'hésitez pas. Aller sur les réseaux et on parle bien sûr de tout ça ensemble. On va se lancer dans un grand fourre-tout de la Free Agency, parce qu'il s'est passé des choses très très hype justement après ce jingle. Welcome back to Super Bowl 50. Décidément, je vais faire du montage aujourd'hui, hein, messieurs. Tac, hop. Alors, on va le faire sans jingle, c'est pas grave. On assume. La Free Agency, messieurs, je vous prends un peu de cours, mais il s'est passé pas mal de choses. Alors, je vous laisse quelques secondes peut-être pour vous focaliser sur une arrivée, un départ, un joueur, une surprise, ce que vous voulez, quelque chose de hype. Et puis on en parle ensemble. Moi, je donne à nos auditeurs et également à vous quelques noms pour se resituer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, la Free Agency, c'est cette période des transferts où il peut y avoir signature ou échange de joueurs, puisqu'on échange beaucoup outre-Atlantique, plutôt que de couper ou alors acheter, même si ça peut également se faire. Je vous donne quelques noms, messieurs. Kirk Cousins, du côté des Falcons. Qu'est-ce qu'il y en a ? On a un gros nom, Russell Wilson, qui arrive donc au Pittsburgh Steelers. Il sera accompagné de Justin Fields. Ça, je pense que ça va nous faire quelques minutes, puisque ça fait beaucoup réagir. Hein, Russell Wilson qui n'a pas réussi à se stabiliser du côté des Broncos. Sam Darnold sera un Vikings. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Jameis Winston aussi qui arrive du côté des Browns. Joe Flacco qui continue à jouer, messieurs, 39 ans. Il sera du côté des Colts pour une saison. Jimmy Garoppolo retrouve la Californie et les Rams de Los Angeles. Qu'est-ce que je peux donner ? Marcus Mariota sera un joueur de Washington. Et puis, Kenny Pickett peut-être aussi à Philadelphia Eagles. Voilà un peu pour les noms que je peux vous proposer, sans vous oublier bien sûr Derrick Henry, qui sera un joueur des Ravens aux côtés de Lamar Jackson. Ça peut vraiment, vraiment être très, très hype. Et je finirai par Drew Lock, qui arrive aux Jets, si je ne dis pas de bêtises. Non, aux Giants.
Giants.
Tant pour moi, aux Giants. Voilà un petit peu ce qu'on peut se raconter. On pourra se focaliser aussi un peu sur l'intersaison réussie ou pas des Patriots. On sait que Rémi scrute tous les sites internet possibles et inimaginables, même jusqu'en Chine, pour savoir ce qui s'y passe.
Bah écoute, je cherche toujours.
Je cherche toujours. Et les Bills également, peut-être focus sur comment accompagner le joyau quarterback des Bills pour tenter effectivement de s'approcher d'un Super Bowl. C'est une petite discussion qu'on peut ouvrir aussi, Olivier, ensemble. Voilà, je vous ai laissé quelques temps, messieurs, parmi ces noms, lequel vous hype le plus. On peut peut-être se focaliser sur Wilson d'abord. Wilson, surprenante ou pas, cette arrivée du côté de Pittsburgh. On sait que les Broncos et lui, ça n'avait pas fité. Est-ce qu'on n'est pas sur un joueur qui doucement est en train de glisser vers un statut de bon quarterback et plus de quarterback all-star comme on a l'habitude de, on avait l'habitude de voir. Qui se lance ?
Bah, je peux me lancer. C'est vrai que pour moi, c'est un deal parfait pour les Steelers parce que de toute façon, c'est Denver qui paye. Donc, signer un Russell Wilson pour 1,2 million, ma foi, ça marche, ça marche pas. En plus, on va choper un Fields pour un sixième tour. Donc voilà, franchement, bravo aux Steelers parce que j'ai l'impression que tout le monde dormait pendant ce temps-là. C'est une affaire en or. Je vois pas ce qu'ils ont à perdre en tentant ça. On a vu Russell Wilson qui est quand même capable de faire de belles choses. Je pense que ça se tente. Ils ont surtout rien à perdre. 1,2 million, c'est vraiment rien du tout.
Je crois que les deux parties ont rien à perdre parce qu'on est sur deux joueurs un peu qui ont des choses à prouver, qui n'ont pas fait une saison à hauteur de leur talent. Effectivement, quand tu les prends à si peu cher, finalement, quand tu es Steelers, tu t'en fais court.
C'est cadeau. Et Justin Fields, pour moi, franchement, on en avait parlé avec Olivier, mais je comprends pas. Je comprends pas comment ça peut arriver. On commençait justement. J'avais tendance à le critiquer début de saison et l'an dernier. Et il m'a fait mentir. J'ai trouvé qu'il faisait une belle progression cette saison. Il commençait à bien s'installer du côté de Chicago. Chicago dispose de très beaux tours de draft. Et du coup, on se dit, on a des beaux tours de draft. On avait un quarterback qui commence à fonctionner. Donc on va le dégager pour un sixième choix. Je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas cette décision. Okay. Tant mieux pour les Steelers, tant pis pour Chicago. J'imagine qu'ils ont de toute façon leur choix qui est tout dessiné, mais je ne comprends pas l'intérêt de construire, parce que c'est vrai qu'un Fields n'était certainement pas NFL ready quand il est arrivé. Mais en attendant, c'est Chicago qui a fait le boulot. Et maintenant, sans doute, Pittsburgh qui va profiter de tout ce travail, qui va en récolter le fruit. Tant mieux pour eux et tant pis pour Chicago. On verra ce que ça donne. De toute façon... c'est fait, mais je suis vraiment étonné qu'aucune équipe n'ait pas proposé mieux que ce sixième tour qui, oui, peut se transformer en un quatrième tour l'année prochaine.
Troisième saison de Justin Fields achevée, donc il commencerait sa quatrième avec les Steelers. C'est vrai que les Bears, la rédemption des Bears passe aussi par la bonne saison, en tout cas meilleure saison de Justin. Donc on pouvait peut-être lui laisser une autre chance. Olivier et Greg, sur les deux joueurs combinés, vous pouvez les mixer si vous voulez. Qui va jouer ?
Quelle combinaison ? Alors, c'est une excellente question. Alors moi...
qui tu fais jouer ?
Je ne suis pas complètement en accord avec ce qu'a dit Rémi.
Ah, ok.
Parce que je pense qu'on occulte un petit élément qui est l'aspect psychologique et mental des joueurs en question.
Ok. Ouais.
Il faut savoir quand même que Russell Wilson, il a pris quand même quelques petites bosses sur la tête ces derniers mois. il s'est fait traiter comme un moins que rien par une équipe avec qui il a gagné le Super Bowl il y a une petite décennie de ça. Du côté de Denver, il s'est fait jeter comme un malpropre à quelques journées de la fin. On lui a dit « Mec, tu coûtes trop cher et limite on est prêt à te payer loin d'ici.
Wow, c'est tellement
pour nous, tu ne représentes pas l'avenir. » Donc, faut voir exactement dans quelle mesure il arrive à se remettre dans le bon sens. Statistiquement, c'était pas un joueur qui était amené à commettre énormément de pertes de balles du côté de Denver. Ça, on peut clairement lui mettre à son crédit. Par contre, ce que je trouve très curieux dans la gestion de Pittsburgh, alors financièrement, les rois du pétrole. On l'a dit, ils ont réussi à escroquer Denver puis Chicago. Donc là, on est sur un remake d'Ocean's Eleven. Là, pour le coup, j'ai absolument rien à dire à l'organisation de Pittsburgh. D'un point de vue gestion de vestiaire. Kenny Pickett, soi-disant, est envoyé à Philadelphie parce qu'il aurait commencé à se plaindre de l'arrivée justement de Russell Wilson et du fait de devoir gérer cette cohabitation. On fait partir Pickett pour prendre Justin Fields à la place, qui visiblement a l'air d'avoir un ego assez important, qui n'a pas fini une seule saison cette année, enfin qui n'a pas fait une seule saison complète depuis son arrivée dans la Ligue, pardon, ce sera mieux formulé de ma part. Et je pense... Je me permets en tout cas de croire que s'il y a d'autres équipes qui n'ont pas pris le risque de mettre un choix plus élevé que celui-là, alors il y a des rumeurs comme quoi l'entourage de Justin Fields aurait catégoriquement refusé d'aller dans telle ou telle équipe. Bon, ça après, on entretient toujours des mythes sur le comportement un peu néfaste, un peu nauséabond de certains joueurs, ça j'y crois pas à 100%. Mais en tout cas, je pense pouvoir affirmer que si des équipes ne se sont pas placées sur Justin Fields, outre sa lecture des défenses parfois approximatives, c'est peut-être aussi parce qu'il n'avait pas envie de gérer l'ego du bonhomme. Et je me dis, Pittsburgh, alors, ils ont cette habitude, hein, ils sont tellement habitués à gérer des égos de receveurs ces dernières années que peut-être, voilà, je remets pas en cause la capacité de Mike Tomlin à le faire. Va falloir quand même, va falloir gérer cette QB room quand même. Et je le dis, entre un quarterback vétéran qui a des bobos sur la tête et un jeune loup qui pour moi n'a pas suffisamment prouvé, mais qui se dit attention les gars, vous allez voir ce que vous allez voir, mais je dois être titulaire coûte que coûte. Je demande à voir l'ambiance en interne.
Et Mike Tomlin, avec son expérience, il sait gérer ça, non ? Quand même.
Ah, j'espère pour Pittsburgh. Encore une fois, on parle d'une franchise qui généralement est quand même mieux organisée que ce qu'on a vu notamment dans un passé récent du côté de Chicago. Okay. Donc oui, en effet, il y a. Et puis voilà, si on parle juste de Wilson, on a vu que quand il était dans une équipe avec une super défense comme à l'époque à Seattle, il était quand même capable de faire le boulot. Là, on va pas lui demander d'en faire des tonnes et des tonnes. Avec Arthur Smith, je pense qu'offensivement, le nouveau coordinateur offensif, ça va beaucoup courir. Donc je suis pas sûr qu'on va lui mettre énormément de pression sur les épaules. Je veux bien faire confiance à Mike Tomlin. Maintenant, voilà, oui, ça fera sans doute encore une saison positive. Mais est-ce que les fans de Pittsburgh en attendent pas plus à leur actuel ?
Je crois que si, Olivier, à Russell Wilson avec dans le rétroviseur à Justin Fields, est-ce que ça nous garantit de le voir performer tout le temps ou alors ça va être difficile pour lui de gérer la pression du jeune qui veut jouer ?
Bah écoute, ça va être compliqué, mais je fais quand même confiance à Tomlin. Moi, dans cette histoire, là où je suis absolument dépité, parce que je vais vous le dire, moi, dans la NFC, mon équipe, c'est les Bears. Et moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens toujours pas qu'on donne ce quarterback aux Steelers, parce que donner enfin, un sixième tour, c'est ridicule. Pour parier, donc, parce que tout le monde le sait, si les Bears font ça, c'est parce qu'ils ont choisi de prendre Caleb Williams comme premier choix de la draft. Mais Caleb Williams, c'est un quarterback qui n'a jamais joué un down en NFL. Donc peut-être, moi je veux bien croire que c'est le futur Joe Montana, mais personne n'en est sûr. Personne ne sait ce qu'il va valoir vraiment dans la NFL. Les Bears avaient la possibilité de vendre ce premier choix, probablement une rançon de roi à plein d'équipes qui recherchent des quarterbacks. Ils avaient un Justin Fields qui commence à fonctionner. Ils pouvaient l'entourer avec cette rançon de roi, avec encore plus de talent, alors que Chicago commence à avoir pas mal de talent. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir pour les Bears l'année prochaine. Je pensais que la NFC North, avec les Packers, les Lions et les Bears, ça allait être énorme. Et là, je suis un peu déprimé par ce choix. Enfin, j'ai plein de copains en plus, parce que j'aime bien les Bears, parce que j'ai pas mal de copains qui en sont fans.
Ouais.
Et franchement, c'est la dépression générale chez tous mes potes fans des Bears. Quoi.
Juste, Olivier, un petit point qu'il ne faut pas oublier. Alors déjà, je pense sur la question de Caleb Williams, on aura peut-être l'occasion de développer. Pour moi, je pense que c'est les mêmes problèmes que Justin Fields. Et je pense que Chicago, ils ont été dans un point de vue où, très basiquement, ils se sont dit avec qui on va faire le plus d'économies sur les années à venir.
Okay.
Et je pense que si tu récupères un rookie avec le premier choix de la draft et que justement tu peux construire ton équipe pendant 3-4 ans avec un contrat plus ou moins minimum,
il ne veut pas payer quoi.
Justin Fields,
en gros, il ne veut pas payer.
Bah, avoir un quarterback rookie, et je ne t'apprends rien, Sylvain, parce que je pense que les Niners aujourd'hui ils sont bien contents d'avoir un Walter Dick encore dans son contrat rookie.
D'accord.
voilà, c'est des économies qui ne sont pas négligeables aussi. Donc, plutôt que se retrouver dans une situation un peu embêtante, comme les Giants, par exemple, l'année dernière avec Daniel Jones, où tu arrives à la fin du contrat de Justin Fields, où tu es là à te dire, bon, on fait quoi maintenant ? On le prolonge ? On le laisse partir ? Comment on gère ?
Greg, le problème, c'est les contreparties.
Et là, tu dis, tu as le premier choix de la draft. Pendant 3-4 ans, tu vas avoir un contrat qui ne va pas peser trop cher dans le salary cap, qui en plus, tu l'as dit tout à l'heure, est en constante augmentation en NFL. Donc, ils ont pris un receveur avec Keenan Allen. Là, pour le coup, eux, ils ont racketté les Chargers en allant chercher un receveur vétéran.
Ouais. Autre victime pour s'entendre.
Ils arrivent quand même à bien entourer Caleb Williams ils arrivent quand même à entourer possiblement Caleb Williams, parce que la draft n'a pas encore eu lieu, faut pas l'oublier.
Ouais. Mais parce que c'est des gens d'ici là, effectivement.
Voilà, si c'est bien Caleb Williams qui est choisi, on ne peut pas dire qu'il n'est pas entouré autour. Après, voilà, je pense, pour répondre à ta question, que c'est leur logique. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi le truc. Et pour moi, de toute façon, je pense qu'avec Justin Fields, il ne pouvait pas aller plus loin, même si j'aurais été curieux de voir avec Shane Waldron, un coordinateur offensif, ce que ça aurait pu donner.
Bon, Pas hyper convaincu quand même sur le choix à venir et changer un quarterback. On sait que c'est quand même la pierre angulaire d'une attaque. On construit autour de lui. Je suis pas sûr que là, sur une saison comme celle que les Bears ont faite, c'est-à-dire un petit peu meilleure que ce qu'on avait pu voir, Caleb Williams puisse être tout de suite celui qui continue le projet.
Oui, oui, puis bon, les quarterbacks à Chicago, bon, on connaît l'histoire, quoi. Je veux dire, on sait que historiquement,
c'est
quand même the place to be.
C'est exactement ça.
Voilà.
C'est aussi ça, c'est que on a tellement peu l'habitude d'avoir un quarterback digne de ce nom à Chicago que dès qu'on en a un qui fonctionne à peu près, on est dépité de le voir partir, effectivement. Ça, je pense que effectivement, dans une autre franchise, ça serait peut-être mieux passé.
Dans l'après-guerre, Jay Cutler est meilleur quarterback de l'histoire des Bears, je pense qu'on peut le dire.
Les punchlines de Greg.
C'est vrai.
On les aime. Bon, à suivre, effectivement, Caleb Williams n'est toujours pas drafté, mais ça devrait être une cible des Bears. Et on l'espère pour la déprime d'Olivier, hein, parce qu'on ne voudrait pas non plus que ça s'inscrive trop longtemps dans le temps, Olivier. On continue un peu sur un autre quarterback, Jimmy Garoppolo, un ancien des Niners, on en parlait, vu du côté des Raiders, et qui fera donc peut-être le banc, c'est-à-dire qu'il sortira peut-être du banc, comme disent les joueurs NBA, pour les Rams. Jimmy Garoppolo, qu'est-ce qu'on peut penser de cette acquisition pour les Rams? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut peut-être bouleverser la hiérarchie? Est-ce que c'est juste maintenant presque un vétéran qui peut rendre service si jamais il y a blessure?
Bah écoute, je suis content qu'il aille à Los Angeles parce que là, c'est un casting parfait pour lui. Voilà. Là, en termes de... ça me rappelle un peu...
Je sens de l'ironie, non, ou pas dans le ton.
C'est un peu comme la série Blue Mountain State. Tu sais, c'est le quarterback qui arrive et qui est très content d'être backup.
Oh là 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 là, les découpeurs.
T'es trop fort, Mathieu. T'es trop fort pour moi.
Greg, le sécateur, quoi.
Non, mais après... pour le coup, je suis désolé, mais historiquement, Jimmy Garoppolo... Alors, je vais pas lui faire un jour. À San Francisco, il a démontré qu'il était capable... D'être le game manager qui surfe un peu sur tout ce qu'il y a
il
autour.
Il se blesse pas le Super Bowl face aux Chiefs, je pense qu'on prend.
C'est intéressant parce que du coup, ton début de phrase marche avec tout, s'il ne se blesse pas. Et j'espère qu'il y a une infirmerie très solide du côté de Los Angeles parce que ça, c'est son autre problème et c'est ce qui fait que malheureusement, blague à part maintenant, voilà, c'est pour ça que les Raiders se sont décidés, une fois que Josh McDaniels est parti, à se dire que bah, finalement, ce n'était pas essentiel de l'avoir pour l'avenir de l'équipe et que malheureusement, avant ça, bah, sa carrière a été un petit peu tronquée à San Francisco et qu'on a préféré prendre une autre direction. Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai presque envie de dire tristement, on va se rappeler de son Super Bowl en effet avec San Francisco et on va se rappeler du fait que c'était aussi principalement le backup de Tom Brady. Donc il revient dans un rôle qui a fait un peu sa légende en NFL. Si Matthew Stafford se blesse, et on a vu que c'était le cas il y a 2 ans maintenant, ça ne jure pas d'avoir Garoppolo en backup. C'est plus rassurant que Stetson Bennett qui est que dans sa deuxième année. L'année dernière, ils avaient Carson Wentz. J'ai envie de dire pourquoi pas Jimmy Garoppolo. Il n'y a pas non plus... voilà. Mais ce n'est pas un choix qui, moi, me paraît déconnant. Et ça s'inscrit dans une certaine logique. Il a joué à San Francisco, donc le système Shanahan McVay, il le connaît. Hein.
Bon. C'est peut-être une chance pour lui. Il démarrera effectivement peut-être en doublure. Suspendu pour dopage, par contre. Je n'avais peut-être pas vu, je ne sais pas si vous avez vu cette info, mais il ne devrait pas démarrer la saison parce qu'il y a une suspension pour dopage hein, concernant Jimmy Garoppolo. Donc, bon, pas la meilleure façon d'arriver quand même dans une équipe. Olivier et Rémi, Jimmy Garoppolo en quelques mots. Olivier, peut-être.
Non, bah écoute, je pense que Greg a fait le tour de la situation. Il a un peu tout dit. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de quarterbacks qui ont changé de club dans cette intersaison, mais il y a beaucoup de quarterbacks qui ont changé de club pour aller prendre des rôles de backup. Hein. On a parlé de Flacco, on a parlé de Pickett aussi. Voilà, il y a au Bills, on a signé Trubisky. Enfin, il y a pas mal de changements sur le poste de remplaçant, de numéro 1. Pas forcément beaucoup. Alors, mis à part effectivement ce que les Wilson Fields aux Steelers, pas forcément beaucoup sur les postes de starter. Donc, on verra comment ça se concrétise parce que cette année, ça a été quand même un point très très fort de cette saison. On a vu énormément de quarterback backup qui ont été obligés de, de jouer, parce qu'il y a eu pas mal de blessures, il y a eu aussi pas mal de changements de titulaires qui ont perdu leur poste, etc. Donc, le quarterback numéro 2, ça devient aujourd'hui un élément très important dans un effectif NFL. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit beaucoup de changements et d'équipes qui essayent de bousculer ce qu'ils avaient à ce poste.
On enchaîne, Rémi, peut-être tu peux commencer sur l'arrivée d'un certain Derrick Henry du côté des Ravens. Ça va faire bizarre de le voir porter un jersey violet, tant les deux équipes, là, les Titans et les Ravens, se sont affrontés en playoff. C'est quand même une belle acquisition, même si la saison de Derrick est un peu moins impactante, celle qui vient de s'achever avec les Titans. Qu'est-ce que ça peut donner d'avoir deux monstres comme ça dans ta ligne offensive quand il s'agit des Ravens?
Bah écoute, pour moi, c'est pas une mauvaise. Je le vois pas comme le trade du siècle, ça c'est clair et net.
Petit contrat en plus, hein, il arrive pour, je crois, deux ans avec un petit contrat.
Mais malgré tout, ça reste une signature intéressante parce que c'est clair que pour le coup, c'est un gars qui va produire au sol dans une équipe qui aime courir. Le jeu au sol est assez important du côté des Ravens, on le sait depuis longtemps. Ils ont eu tendance à perdre, y compris l'année passée, leur running back titulaire rapidement. Henry, c'est quand même du solide. Il a montré une régularité tout au long de sa carrière. C'est vrai qu'il n'est pas, dans le plus haut de sa carrière et la carrière se rapproche plus de la fin qu'autre chose. Mais malgré tout, ça reste un running back hyper solide qui va être, à mon avis, une arme redoutable pour soulager un petit peu Lamar Jackson. Donc pour moi, c'est quand même une bonne signature. Je ne le vois quand même pas comme un truc qui va révolutionner l'attaque des Ravens. C'est clairement un gros nom, c'est ronflant. Mmh. Mais malgré tout, on sait à quoi s'attendre. C'est clair que ça va être solide, c'est costaud, c'est pas facile à arrêter. Mais c'est clairement pas le running back le plus flashy de la ligue à l'heure actuelle. Mais malgré tout, ça renforce une équipe qui en a besoin, je pense, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que les blessures ont commencé à s'accumuler. Et ils ont quand même réussi, pour moi, à faire de belles choses avec des running backs remplaçants, avec des mecs qui étaient un peu moins solides qu'un Derrick Henry. Donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner au niveau statistique pour lui et de voir comment va se passer un petit peu la cohabitation avec l'autre running back / quarterback de l'équipe.
Tout à fait, Lamar Jackson. Bon, il y a quand même deux bombes offensives. Ça devrait quand même aider les Ravens à atteindre leurs futurs objectifs. Un mot sur Derrick Henry, peut-être avec Olivier. Un joueur encore hype, hein, quand même, hein, quand tu vois ce qu'il est capable de faire. Même s'il n'est plus dans ses bonnes années, ça peut quand même faire step up pour moi, les Ravens. Hein.
Oui, ça peut. Alors effectivement, il va falloir voir comment il va être utilisé. Pour le coup, aujourd'hui, utiliser Henry à fond comme l'utilisaient les Titans, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il commence à avoir l'âge de ses jambes. Hein. C'est un poste très très exigeant, hein, le poste de running back. Mais utiliser avec un Lamar Jackson et aussi deux ou trois autres, parce que les Ravens aiment bien faire tourner les running backs. Ça peut être vraiment une arme très intéressante pour cette équipe des Ravens qui sera encore dans le top des équipes de l'AFC. Donc oui, c'est une signature intéressante. Après, il faut signaler que du côté des running backs, il y a eu quand même très très grosse intersaison, hein, parce que il y a Josh Jacobs qui va aux Packers et puis Saquon Barkley qui va du côté de Philadelphie. Donc on a pratiquement peut-être trois des cinq meilleurs running backs de la ligue qui ont bougé. Mmh. C'est pas rien à un poste qui a perdu peut-être son lustre dans le temps, mais qui reste quand même important dans la ligue.
C'est Saquon Barkley du côté de Philly, c'est vrai que je l'avais pas noté ça. Ça reste un grand nom quand même pour cette équipe des.
Je crois que les Giants l'ont noté.
De
leur côté.
Ouais, ça,
Des Giants, de leur sang, effectivement.
Ils l'ont un peu mal.
Ouais. Un peu en travers de la gorge.
Greg, qu'est-ce que tu penses de cette signature de Kirk Cousins, si je puis me permettre?
Parce qu'on
parlait de backup, mais quand même, il y a un gros titulaire.
Ah, oui, c'est vrai.
Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va réussir à faire derrière Tyler Heinicke. Mais.
L'ironie, Greg, non, Richard. Vous commencez à reconnaître, hein, chers auditeurs.
Non, plus sérieusement, voilà, c'était un move nécessaire pour Atlanta, qui avait en effet besoin absolument de repartir sur, alors, j'allais dire sur des nouvelles bases. On parle d'un quarterback qui a quoi, 37 ans maintenant, si je ne me trompe pas, qui revient d'une longue blessure en plus. Hein, donc voilà, là encore, on parle de joueurs qui sont.
Et tout le monde n'est pas Tom Brady, hein, Greg. Hein, tu l'as dit.
Non,
tout à
non, c'est sûr. Après, il y a de plus en plus de joueurs qui vont jusqu'à 40 ans. Hein. Je sais pas quel âge a Aaron Rodgers, mais à mon avis, il doit être pas loin de là, même un peu plus. Donc c'est vrai qu'on est quand même un peu plus sur des quarterbacks qui, avec le qui avec notamment la technologie et les méthodes de récupération peuvent tenir sur des saisons supplémentaires. Donc ça, c'est pas négligeable. Maintenant, oui, il vaut mieux pour Atlanta que tout fonctionne parce que il y a un casting autour de lui qui est pas déconnant. On a réussi à installer sous Arthur Smith une bonne ligne offensive, un excellent running back avec Bijan Robinson, même si à mon sens il a été un petit peu gâché par moment en 2023. Donc je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Enfin savoir si on va pouvoir utiliser correctement Kyle Pitts sur le poste de tight end. Avec une attaque un peu plus aérée et aérienne, ça peut être quelque chose de d'assez excitant à voir. Ils ont été chercher beaucoup de petits receveurs avec Darnell Mooney et Rondale Moore notamment. Donc voilà, principalement pour l'instant offensivement, il y avait des objectifs à atteindre du côté d'Atlanta, ça devenait quand même un petit peu urgent. Et pour les débuts de Raheem Morris en tant que head coach, ça a été considéré. Je pense que la défense le sera un peu plus par le biais de la draft. Mais pour l'instant, en attaque, j'ai l'impression que le boulot a été fait et bien fait dans une NFC Sud
ouverte,
qui reste encore malgré tout assez, voilà, qui reste assez prenable. Du côté de Tampa Bay, on a bien pris soin avec la prolongation également de Baker Mayfield au poste de quarterback de conserver beaucoup de cadres qui ont emmené l'équipe en playoff la saison prochaine. Donc voilà, Atlanta essaie de se donner les moyens en espérant en effet que son gros lot, on dira, récupéré pendant la free agency, ne subisse pas trop les contre-coups de sa blessure de l'année passée.
Ils vont choisir en quelle position les Falcons à la draft ?
Huitième choix.
Huitième, d'accord. Oui. Bon, bah, surveiller. Il y a peut-être quelque chose à récupérer. Tu nous vends quand même un Falcons en playoff ou pas ? Ou on se calme ?
Pour l'instant, je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Après, comme je disais, tout dépend de la possibilité Kirk Cousins. Enfin, tout dépend de son état de forme. Okay. Je pense que s'il revient dans les dispositions de ce qu'on a vu à Minnesota dans un passé récent, là encore, il a joué dans le système de Kevin O'Connell à Minneapolis, qui devrait être assez similaire à ce qu'installe le nouveau coordinateur offensif Zach Robinson à Atlanta. Je vois pas comment cette équipe, offensivement, sortie des blessures, bien entendu, n'aurait pas son mot à dire pour rejouer le titre de division. On a vu qu'ils n'étaient pas si loin que ça, jusqu'à là, peut-être, 14e, 15e semaine, pour être gentil. Ils ont quand même joué des coudes jusqu'au bout dans cette NFC Sud, pour le moins ébouriffante en 2023.
Allez, on se lance. Lançons-nous sur cette touche d'ironie de Greg, qui est très en forme aujourd'hui, sur les équipes hype que l'on aime bien suivre ici, notamment les Bills et les Patriots. On va commencer peut-être par les Bills. Olivier, tu évoquais les objectifs de la franchise que de garder les joueurs déjà dans le line-up. C'était plutôt quelque chose d'assez compliqué à faire. Est-ce que c'est des objectifs qui, toi, te satisfont ? Ou alors, il faut quand même être un peu plus ambitieux ? Quand on parle de joueurs re-signés, on parle de John Dawkins. On peut parler aussi de Daquan Jones. Le DT, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est à peu près tout, je crois. Cam Lewis aussi. Cam Lewis, le cornerback. Dis-nous tout. Quelles sont les ambitions des Bills ? Faut-il être agressif sur le marché de la free agency, des transferts et à la draft ?
Bah écoute, il faudrait qu'on arrive à faire quelques trades à la Steelers, c'est-à-dire des trades qui coûtent rien, parce que c'est clair qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup, de fonds disponibles pour signer des grands noms. Donc effectivement, ils ont essayé de re-signer un certain nombre de joueurs, notamment en défense, mais bon, ils ont aussi été obligés de se séparer notamment de Poyer et de Demetrius White. Donc du côté de du deuxième rideau défensif, ça va être plus compliqué. On a des gros trous de ce côté-là. Et puis on a perdu aussi Gabe Davis, qui était le deuxième receveur. Même s'il avait fait une saison moyenne, il va falloir le remplacer. Donc il y a des trous maintenant dans l'équipe, forcément. C'est un petit peu c'est toujours difficile de rester au top dans la NFL, évidemment. Donc agressif, c'est difficile de l'être, mais clairement il va falloir se pencher sur ces postes-là, c'est-à-dire principalement poste de receveur et sur tout ce qui est defensive back pour gagner au moins un peu de profondeur pour que les Bills puissent rester dans le haut des classements de l'AFC. On verra comment ça se passe, notamment au moment de la draft. Mmh. Mais je ne serais pas étonné que pour une fois, parce qu'ils ont souvent fait l'inverse ces derniers temps, que pour une fois, ils essayent de monter un petit peu dans la draft en donnant peut-être des tours derrière pour aller gratter peut-être un peu plus de talent du côté du poste de receveur, par exemple.
Les Bills qui vont choisir en numéro, tu sais.
Là, je crois qu'ils doivent être en 27 ou 26e, ouais. Ou quelque chose comme ça, ouais.
Ok. Les Patriots, pour finir avec toi, Rémi. Hype ou pas hype cette free agency quelle ambition il faut avoir maintenant pour reconstruire, parce que là on parle vraiment maintenant de reconstruction, cette franchise.
Si les ambitions s'alignent sur la free agency, on va viser le premier tour l'an prochain, donc ça c'est le premier choix l'an prochain, okay. C'est pas mal,
okay.
Mais non, plus sérieusement, que dire de cette free agency, c'est un peu triste, ça fait peine à voir, il se passe pas grand chose. Et apparemment, je dois me réjouir de l'arrivée de Jacoby Brissett, donc super.
Okay.
et on verra. Il faut attendre cette draft, voir si quel quarterback partira en 1 et en 2. Si ce sont des quarterbacks en 1 et en 2, on imagine que Caleb Williams partira. On parle d'une éventuelle arrivée de Jaden Daniels en deuxième choix. Personnellement, je voyais plus Drake May à cette position.
Alors, je ne te dirai pas qui joue à moi, Rémi, pour ne pas te décevoir.
Oula, parce que là, si tu le tues en plein en pleine analyse, il va s'arrêter net, notre Rémi.
Malheureusement, je pense que je suis d'accord avec toi.
Je n'aurai pas les initiales, mais JJM, Rémi. Voilà. JJ McCarthy pour les intimes.
Aïe,
bon, ça pue ce choix du côté des Patriots, je vous l'annonce. Hein.
Ah oui, c'est extrêmement probable. Hein.
Ça va courir à New England l'année prochaine.
Ouais, on est parti sur quelques années de disette, apparemment.
Ouais, quelques années de disette. Après, à voir ce que va valoir ce coaching staff, mais c'est vrai qu'on a une équipe qui se retrouve un petit peu sans rien. On a quand même... au final, le départ de Bill Belichick, on sait aussi que ça va commencer à poser des questions au niveau défensif. Parce que certes, il avait ses défauts, mais en attendant, il arrivait à faire, quelles que soient les armes, une défense redoutable. Ce sera moins le cas. On n'a pas de nom ronflant. Très curieux de voir le retour de Gonzo au poste de cornerback, qui avait fait un excellent début de saison, mais qui s'est blessé. Ouais. Mais au niveau offensif, ça fait peur. C'est clair que ça fait très, très peur au niveau offensif. Je ne sais pas qui sera le quarterback titulaire, en tout cas. J'espère que Greg se trompe, mais c'est vrai que ça pourrait y ressembler très très fort. J'attends avec impatience cette draft, tout comme je la redoute. Et elle sera capitale, parce que c'est quand même un troisième choix, c'est pas rien.
Oui.
Un troisième choix dans la draft. On a loupé la signature de Calvin Ridley, même si c'était un petit peu cher au final. Je me demande si c'est pas un mal pour un bien à ce prix-là.
Ouais.
Mais en attendant, Calvin Ridley... préfère signer dans une autre équipe pour moins cher. Donc ça en dit long sur la vie des différentes stars de la free agency.
Oui, voilà, ça en dit long sur l'attractivité un petit peu du marché bostonien ou pas loin. Quand on se rend compte qu'il y a quelques saisons, c'était totalement l'inverse. Bon.
Oui. Ce dont je viens de me rendre compte, Rémi, c'est que c'est vous qui aviez drafté Jacoby Brissett. C'est un retour au bercail.
Un retour au bercail. On fait pas du neuf avec du vieux du côté de New England.
Non,
tout le monde. Et les joueurs qui viennent de l'extérieur, c'est les joueurs qui ont joué à New England. Donc,
Il faut être du cru pour pouvoir aimer ou percer.
Manifestement. Ils ont signé KJ Osborne, je veux le receveur de Minnesota. Oui. Donc peut-être qu'il est passé par Boston la semaine dernière. Il peut y avoir un lien quelque part.
Un cousin ou un frère.
Ah là là, difficile, difficile marché des Patriots qui l'eût cru. Bon, on va surveiller ça. Hein, de toute façon, on essaiera, messieurs, je vous l'annonce en direct, de se retrouver pour faire une petite analyse post-draft pour justement avoir une idée des effectifs. À peu près acté pour la saison d'après, ce qui fera aussi la belle transition pour nos previews de saison prochaine. On va s'arrêter là, on a promis de faire très très court, on est content d'avoir pu se retrouver, messieurs, après quelques semaines, ça faisait longtemps et ça fait surtout très très plaisir. On va vous remercier, hein, passer une belle soirée du côté de la Belgique pour toi, Rémi, pas de déprime. Pas comme Olivier, s'il te plaît.
Merci à toi. J'essaie de rester de bonne humeur malgré la météo qui, contrairement à celle d'Olivier, est plutôt pitoyable ici.
Bon, eh ben, écoute, force à toi, Olivier, courage également. Si jamais il y a besoin aller. De parler, tu sais où me trouver.
Non, mais ça devrait aller. La saison de baseball commence bientôt, donc on va passer à autre chose.
Oh, exactement, horreur. Exactement. Le
deuxième avec la fin
de la saison. Le mot-clé.
Je crois que je préfère la pluie. Mais...
oui, moi aussi, ouais.
Le mot-clé.
Le vent, la tempête.
On fera peut-être une discussion autour du baseball, parce que je me promène ici et là dans quelques rédacs en France, et c'est vrai que le baseball a plus aussi la cote qu'avant. Il va falloir se poser les questions de pourquoi, notamment l'accessibilité des règles, apparemment toujours aussi un peu obscure, puis le temps de jeu.
Aussi, Sylvain, je te ferai un dossier si tu veux.
Allez, eh ben, je prends, comme ça j'aurai quelques arguments pour essayer de contre-argumenter justement.
Je t'enverrai mon dossier, Sylvain, que j'avais fait pour The Strikeout à l'époque où j'écrivais chez eux, parce que on avait fait un dossier en 4 parties sur comment regarder un match de baseball et comment apprécier le baseball. Donc, il a eu pas mal de succès. Donc, je te le ferai suivre.
Je veux bien,
avec
plaisir.
Avec un œil ouvert, et c'est pas facile.
Ça manque beaucoup de pédagogie à travers ce sport pour le comprendre. Donc, effectivement, pourquoi pas. Merci, Olivier. Merci, les gars. Et puis, merci la communauté Hype. Et puis, on se retrouve très vite. Hein. Enfin, très vite. Dès que possible, dès qu'il y a info Hype pour un nouveau podcast. Ciao.
To go deep into the end zone.
We better put some people in the end zone, right, Joe?
That's exactly right.
I mean, there's nobody inside the 10.
Get back.
Here it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up.